Je vous invite à poursuivre notre série sur Gédéon. Gédéon que nous avons quitté il y a 15 jours, après que Dieu lui ait confirmé par un signe que c'est bien lui qui l'a appelé à être le libérateur de son peuple. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. La délivrance va pouvoir commencer. En fait, pas encore. Pourquoi ? Parce que Gédéon doit d'abord faire quelque chose. Quelque chose d'indispensable pour que Dieu puisse se servir de lui. D'indispensable pour que Dieu puisse délivrer son peuple de l'oppression madianite. Et je vous invite à lire donc le texte que nous allons méditer ce matin dans le livre des Juges au chapitre 6. Nous commençons la lecture au verset 25 et je la terminerai au verset 32. Juges chapitre 6, versets 25 à 32. Le soir même, le Seigneur dit à Gédéon : Prends le taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Tu raseras l'autel de Baal qui appartient à ton père et tu couperas le poteau cultuel, l'Achéra, qui est à côté. Tu bâtiras ensuite, selon les règles, un autel pour le Seigneur, ton Dieu, sur le haut de ce lieu fortifié. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau cultuel que tu auras coupé. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que le Seigneur avait dit. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se levèrent de bon matin, l'autel de Baal était démoli. Le poteau cultuel qui était à côté avait été coupé et le second taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Ils se dirent l'un à l'autre : Qui a fait cela ? Ils s'informèrent, firent des recherches et conclurent : C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas : Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel du Baal et coupé le poteau cultuel qui était à côté. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui : Est-ce à vous de défendre la cause du Baal ? Est-ce vous qui allez le sauver ? Quiconque défendra la cause du Baal sera mis à mort avant le matin. S'il est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisque c'est son autel qu'on a démoli. En ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Yerub-Baal en disant que le Baal se défende contre lui, puisque c'est son autel qu'il a démoli. J'aimerais dans un premier temps que nous considérions les instructions que Dieu donne à Gédéon. Ce sera notre premier point, les instructions de Dieu. Le passage que nous venons de lire commence par préciser que les événements qui s'enchaînent rapidement, s'enchaînent rapidement avec ce qui a précédé. Le soir même, dit le texte, il n'y a pas de temps à perdre. Ce que Gédéon doit faire, il doit le faire rapidement, sans attendre. Et que doit-il faire ? Il doit détruire l'autel du dieu Baal et le poteau de la déesse Achéra qui appartiennent à son père, dit le texte. Puis il doit offrir un autel au Seigneur, bâtir un autel au Seigneur et y offrir un holocauste. La mission de Gédéon commence donc par l'exécution d'un ordre auquel Israël a désobéi. En effet, Dieu avait dit à plusieurs reprises « quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance pour les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. » Vous démolirez leurs autels. Cette parole se trouve au début du livre des Juges, chapitre 2, verset 2, et elle reprend les mêmes instructions données à plusieurs reprises au peuple. Nous les trouvons dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome. Rappelons que c'est d'ailleurs pour avoir désobéi à cet ordre, en devenant idolâtre, que Dieu a puni son peuple en permettant l'invasion, l'oppression madianite. Ce premier point sur les instructions de Dieu m'amène à formuler deux leçons qui me paraissent se dégager ici. Et je formule la première ainsi : pour servir Dieu, je dois commencer par faire le ménage dans ma propre vie. Il est intéressant ici de constater que l'obéissance qui est attendue de Gédéon concerne tout d'abord sa vie privée, sa vie personnelle. L'autel de Baal et le poteau d'Achéra appartiennent à son père, à sa famille. Quelle était la part de Gédéon dans ce culte idolâtre ? Le texte ne le précise pas. Mais il est difficile d'imaginer que Gédéon n'ait eu aucune part dans ce culte. Une part, si elle a eu lieu, qui doit maintenant disparaître avant que Dieu ne puisse se servir de lui. Il faut que Gédéon commence par faire le ménage dans sa propre vie. Et ce ménage concerne l'appartenance de son cœur. Gédéon ne peut pas servir le Seigneur en gardant l'autel de Baal chez lui, dans son jardin ou quel qu'ait été l'endroit où il s'est trouvé. Cela m'a fait penser à cette parole de Jésus qui dit que nul ne peut servir deux maîtres, parce que l'attachement à l'un se fera automatiquement, nécessairement, au détriment de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Cela veut dire pour nous que nous devons franchement choisir notre camp. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et Baal au même temps. Nous ne pouvons pas servir Dieu et des idoles dans notre vie, dans notre cœur. Notons bien que dans notre texte, l'autel du Seigneur ne pourra être bâti qu'après la destruction de l'autel de Baal. Cela veut dire que si je veux m'attacher à Dieu et le servir, je dois commencer par identifier, puis détruire les idoles de mon cœur, de ma vie. Je dois faire allégeance à Dieu et à Dieu seul. Rien ne doit prendre sa place dans ma vie. Je ne peux pas servir de maître. Notons pour terminer cette première leçon, application, que tout cela doit être fait avec une certaine promptitude. L'indication du texte la nuit même suggère que dans ce domaine, il faut battre le fer quand il est chaud. Il ne faut pas remettre au lendemain ce qui doit être fait rapidement, au risque d'accepter et de m'installer dans une sorte de cohabitation. L'idole que j'ai identifiée dans mon cœur doit être abattu sans attendre, doit être toujours abattu sans attendre. Et cela est vrai au moment de la conversion, bien sûr, mais c'est vrai tout au long de notre vie chrétienne. Parce que tout au long de notre vie chrétienne, il peut arriver que nous laissions des idoles prendre de la place dans notre cœur, dans notre vie. Le psalmiste écrit « Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. » Et on pourrait dire ici, « Sonde-moi et mets le doigt sur les idoles de mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La deuxième leçon que je voudrais faire à ce stade est celle-ci. Madian ne peut être vaincu que si Baal a été détrôné. Madian ne peut être vaincu que si Baal a été détrôné. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Madian, dans notre texte, c'est bien évidemment le peuple qui oppresse Israël. Et pour que Madian soit vaincu, il faut au préalable que Baal soit abattu. Il faut que le peuple revienne à l'Éternel, pas seulement en parole, mais en acte concret. La libération politique, entre guillemets, commence par la libération spirituelle. Si nous faisons un parallèle avec notre vie, nous pourrions dire par analogie que ce qui nous oppresse moralement, spirituellement, parfois même physiquement, les choses sont souvent liées, ne peut véritablement disparaître de ma vie que dans la mesure où Christ règne sur ma vie, où Christ trône sur mon cœur, que dans la mesure où je purifie mon cœur de ses idoles. Chers amis, il y a peut-être dans votre vie des choses qui vous oppressent, des choses sur lesquelles vous avez perdu le contrôle, des choses dont vous aimeriez être délivré. Une addiction peut-être, une mauvaise habitude. Pour beaucoup de ces choses, et je ne dis pas que c'est facile et que ça se fait tout seul, mais pour beaucoup de ces choses, il est possible d'avoir la victoire, il est possible d'être libéré. Parce que si le Fils, Jésus, nous rend libres, nous affranchit, nous sommes réellement libres. Mais pour cela, il faut que pour que Madian soit vaincu, il faut que Baal soit détrôné. Pour que nous soyons libérés de ce qui nous oppresse, il faut que le Christ trône et règne entièrement sur notre vie. Madian ne part pas tant que Baal trône dans ma vie, tant que mon cœur est partagé. Et un des problèmes auxquels font face certains chrétiens, et nous pouvons peut-être tous nous mettre là à un moment donné, c'est précisément cela. Ils ont bâti un autel au Seigneur, ils ont accueilli le Seigneur dans leur vie, ils essayent de vivre en suivant ses voies, mais ils ont omis, volontairement ou involontairement, de démolir l'autel de Baal, les idoles de leur cœur. Ils ont accepté, toléré la cohabitation. Et ils s'épuisent à lutter contre Madian qui ne part pas, sans comprendre pourquoi le Seigneur ne répond pas à leurs prières, sans comprendre pourquoi ils ne vivent pas ou peu de la vie en abondance promise par le Christ. Alors, devant la défaite répétée, le découragement et le doute s'installent. Le doute sur la capacité de Dieu à pouvoir nous libérer de notre Madian, de tout ce qui nous oppresse. Chers amis, la question n'est pas de savoir si Dieu est capable ou non, il est capable. Et beaucoup ont expérimenté les délivrances de Dieu dans leur vie. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La question, c'est de savoir si je suis prêt à déloger les idoles de mon cœur. Est-ce que je suis prêt à capituler ? Est-ce que je suis prêt à m'en détourner, quoi qu'il en coûte ? Est-ce que je suis prêt à véritablement plier le genou devant Dieu ? Madian ne part qu'à cette condition. Attention donc à ne pas faire les choses à l'envers. Mais si nous les avons faites à l'envers, il est toujours possible de les faire dans le bon ordre. Il est toujours possible, par la grâce de Dieu, d'abattre les idoles de notre cœur, avec son aide bien sûr, et de jouir des délivrances que Dieu veut nous accorder. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En abondance. Ça, c'est la vie sans Madian. Après les instructions de Dieu, Gédéon passe à l'action. Il obéit à Dieu, c'est notre deuxième point, l'obéissance de Gédéon. La tâche est sans doute trop importante pour un homme seul. C'est pourquoi Gédéon prend 10 hommes parmi ses serviteurs. Et nous avons vu la dernière fois que c'est un indice de l'aisance de la famille de Gédéon. Gédéon est assurément un homme de foi, un homme qui désire obéir à Dieu. Certes, il a eu besoin d'être convaincu, besoin d'être rassuré. Nous l'avons vu la dernière fois. Mais une fois qu'il est convaincu, il agit. Il obéit à Dieu. Rappelons-nous ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'inclut dans la liste des héros de la foi au chapitre 11. Ceci dit, Gédéon décide d'agir de nuit. Gédéon décide d'agir de nuit et au verset 27, nous lisons qu'il le fit par crainte de sa famille et des gens de la ville. Et nous comprenons ici que ce lieu de culte idolâtre concernait bien plus que la seule famille de Gédéon. C'était certainement le lieu de culte de toute la ville, et peut-être même plus. Y toucher n'allait pas seulement poser des problèmes avec son père, avec sa famille, mais avec tous les habitants de la ville. Mais Gédéon fit ce que le Seigneur lui avait dit. En d'autres mots, il détruisit l'autel de Baal, coupa le poteau de la déesse Asherah. Alors c'est anecdotique que je le mentionne en passant, mais littéralement le nom de Gédéon veut dire en hébreu « celui qui coupe » ou « celui qui fait tomber ». Gédéon le bien nommé. Ensuite, après avoir fait cela, Gédéon bâtit un autel au Seigneur et il y offre en holocauste un des 2 taureaux utilisés, sans doute pour détruire l'autel. Et c'est ce que les habitants d'Ophra vont découvrir le matin, le lendemain. Verset 28, lorsque les gens de la ville se levèrent de bon matin, l'autel du Baal était démoli, le poteau cultuel qui était à côté avait été coupé et le second taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Alors je ne vais pas rentrer ici dans les arguments de ceux qui comprennent qu'il n'y avait qu'un taureau et de ceux qui disent qu'il y en avait 2, comme le traduit la Nouvelle Bible Second que j'utilise. C'est une question de traduction de l'hébreu, c'est technique, et puis finalement, ce n'est pas très important pour la compréhension du texte. Donc, je passe. Par contre, ce qui me semble important à souligner ici, c'est que le taureau qui est offert en sacrifice était âgé de 7 ans, comme nous le lisons au verset 25. « Le soir même, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. » Sept ans, non pas comme le symbole d'une perfection quelconque, mais sept ans comme le nombre des années d'oppression par Madian. Au début du chapitre, nous l'avons lu, les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour sept ans. Il y a donc ici, dans le sacrifice qui est demandé à Gédéon, dans ce retour à Dieu, à minima quelque chose de symbolique, et sans doute même quelque chose de l'ordre de l'expiation pour les sept années de rébellion, les sept années d'idolâtrie, pour lui et pour le peuple. Notons encore qu'offrir un taureau en sacrifice dans cette période de disette était un véritable acte de foi et de confiance en Dieu pour l'avenir. Mais les agissements de nuit de Gédéon posent problème et sont diversement interprétés. Il y a ceux qui voient là un acte de foi, de courage, de bon sens, etc. Et puis, il y a ceux qui voient là le signe de la peur, de la crainte, de la lâcheté qui habitait Gédéon. Comment faut-il comprendre cela? Chacun se fera sa propre opinion. Je vais personnellement argumenter en faveur de la foi de Gédéon, ce qui m'amène à une troisième leçon que je formule ainsi. Servir Dieu par la foi n'exclut ni la crainte, ni la sagesse. Gédéon est un homme de foi, nous l'avons déjà dit. Mais en fait, les choses sont mêlées. Les risques existent et la crainte s'invite dans l'équation. Les choses sont souvent ainsi dans nos vies. C'est un espèce de fantasme courant parmi les chrétiens que de penser que la vraie foi, elle est toujours pure à 100%. Ça, c'est la vraie foi. Est-ce que c'est seulement possible? Mais en fait, à cause de notre humanité, à cause de notre péché, la foi est souvent, peut-être même toujours, mêlée à d'autres choses. La peur, la crainte, le doute, l'incrédulité. L'exemple le plus frappant peut-être de cette réalité mêlée des choses, c'est la parole de ce père dans les évangiles qui vient trouver Jésus avec son fils malade, démoniaque, et qui dit à Jésus « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Foi, incrédulité, tout ça dans la même phrase, tout ça dans la même vie, tout ça au même temps, comment est-ce possible? Gédéon est un homme de foi qui éprouve de la crainte devant la tâche à accomplir, parce que les risques sont réels. Est-ce que cette crainte diminue sa foi? Je ne le crois pas. Ce serait le cas si la crainte l'avait amené à ne pas agir. Là, oui, ça serait problématique. Et c'est ainsi que Gédéon décide d'agir de nuit. Et personnellement, je vois là du bon sens, de la sagesse, du discernement et certainement pas de la lâcheté. Pourquoi se jeter inutilement dans la gueule du loup? Pourquoi prendre des risques inutilement? Bien évidemment, Dieu pouvait garder Gédéon s'il avait agi de jour. Nous n'en doutons pas. Mais Dieu qui nous appelle à le servir, nous appelle aussi à le servir avec sagesse, avec bon sens, avec discernement. La foi n'a pas besoin d'être déraisonnable pour être efficace ou réelle. Ce n'est pas parce que je me mets en danger que ma foi est grande. Prendre des risques, ce n'est pas nécessairement le signe d'une grande foi. c'est parfois tout simplement le signe d'un grand manque de sagesse. La suite du récit montre clairement l'opposition des habitants d'Ophra qui étaient prêts à aller jusqu'au meurtre de Gédéon. Verset 30, nous l'avons lu, « Fais sortir ton fils et qu'il meure !» Oui, je pense que Gédéon a bien fait d'agir de nuit. En agissant de jour, il aurait dû faire face à une opposition certaine. Dieu l'en aurait peut-être préservé. Ça aurait peut-être compromis sa mission, je ne sais pas. Et tout cela m'amène à dire et redire deux choses. Premièrement, la crainte n'est pas nécessairement un manque de foi. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, nous pouvons servir Dieu même quand nous sommes dans la crainte. Et ça m'a fait penser à ce que l'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, quand il parle de l'état dans lequel il était quand il était là avec les chrétiens de Corinthe. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » C'est l'apôtre Paul. Alors, est-ce qu'il n'a rien fait pour autant ? Est-ce qu'il est allé à la pêche en attendant que ça passe ? Que dit-il dans la suite ? Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation, etc. Malgré la crainte, Paul a continué à prêcher, à enseigner, à faire ce pour quoi Dieu l'avait appelé. Sa crainte, quelle qu'en ait été la raison, ne l'a pas empêché de servir, ne l'a pas empêché d'obéir, ne l'a pas empêché d'agir. Chers amis, il nous arrive à tous, je pense, d'éprouver de la crainte devant un service à accomplir, une tâche qui nous a été confiée. Faut-il pour autant renoncer ? Je ne crois pas. La réalité de la crainte dans notre vie de service pour le Seigneur ne doit pas nous amener à renoncer, mais elle doit nous amener à faire encore plus confiance au Seigneur. Voilà ce à quoi la crainte doit mener dans notre cœur, à ne pas nous reposer sur nos forces, qui bien évidemment ne sont jamais suffisantes, mais à nous en remettre au Seigneur qui est tout-puissant. Vivre par la foi, c'est obéir et parfois servir malgré la crainte. C'est obéir et servir en nous appuyant toujours sur le Seigneur. Et puis je disais, agir par la foi, c'est agir avec sagesse et discernement, comme Gédéon l'a fait, en n'agissant pas en plein jour. Il aurait pu le faire, bien sûr. Mais cela m'amène à dire une évidence, je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est que la foi et la raison font souvent bon ménage, malgré ce qu'on peut parfois entendre. Et il est vrai que parfois, Dieu peut aussi nous emmener sur des chemins un peu moins raisonnables. Gédéon a donc agi de nuit. Et le lendemain, ce qu'il a fait ne passe pas inaperçu. Et j'aborde maintenant pour terminer un troisième et dernier point sur les conséquences de l'obéissance de Gédéon. Et ces conséquences sont essentiellement de trois ordres. Premièrement, il y a la colère des habitants de la ville qui découvrent le lendemain les dégâts, l'ampleur des dégâts. L'autel de Baal a été réduit à néant, le poteau d'Achéra a été coupé et a servi de bois pour faire le sacrifice sur le nouvel autel à l'Éternel. Et après avoir mené l'enquête, ils acquièrent la conviction que le responsable, c'est Gédéon. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ? Ils s'informèrent, firent des recherches et conclurent, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? On ne le sait pas. Le texte ne le précise pas. Mais leur colère est telle qu'ils sont prêts, nous l'avons souligné, à tuer Gédéon. Fais sortir ton fils et qu'il meure. Pourquoi veulent-ils le faire mourir? Mais et ce qui est frappant ici, c'est de constater la profondeur, l'ampleur de l'idolâtrie du peuple à ce moment-là. Un commentateur le souligne bien quand il écrit aux antipodes du code mosaïque de la loi de Moïse qui demandait la mise à mort des idolâtres, les habitants d'Ophra veulent tuer le réformateur. On inverse tout. Et une note de la Bible d'études du semeur complète, la déchéance spirituelle de ces Israélites les pousse à appliquer aux défenseurs de la loi la peine que celle-ci prévoyait pour les idolâtres. C'est le monde à l'envers. C'est la confusion totale dans laquelle règne, enfin, dans laquelle se trouve Israël à ce moment-là. La deuxième conséquence de l'obéissance de Gédéon, c'est qu'elle va ranimer, on va le dire avec des mots un peu comme ça, l'esprit théocratique du Père, va ranimer la flamme de la foi en l'Éternel dans le cœur du Père. Son Père qui devait, à l'évidence, jouer un rôle important dans le culte idolâtre. Et c'est donc totalement inattendu quand, au matin, le père prend la défense du fils. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause du Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque défendra la cause du Baal sera mis à mort avant le matin, s'il est Dieu qu'il se défende lui-même, puisque c'est son autel qu'on a démoli. » Alors le texte là aussi ne dit pas ce qui s'est passé, mais à l'évidence, il s'est passé quelque chose dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête de ce père. Il y a eu une prise de conscience. Et on peut voir ici, me semble-t-il, les premiers fruits de la réforme qui est en marche par l'obéissance de Gédéon. Les paroles de Joas sont pleines de sagesse, de bon sens. Pourquoi serait-ce à nous de défendre la cause de Baal s'il est Dieu qu'il se défende lui-même? En fait, il n'en sera pas capable, parce que ce n'est qu'une idole de bois, de pierre. Et comme les dieux égyptiens au temps de Moïse, Baal, Ashéra vont rester silencieux et impuissants. La troisième conséquence concerne la réputation de Gédéon, une réputation qui ne sera plus jamais la même. À chaque fois que quelqu'un verra Gédéon, il se souviendra que Baal n'a rien fait, que Baal n'a rien pu faire, que Baal était totalement impuissant. Il s'en souviendra en particulier à cause du nom, du nouveau nom qui est donné à Gédéon, Yerubbaal, qui signifie littéralement que Baal se défend de lui-même ou que Baal plaide en sa propre faveur. C'est-à-dire que Baal se fasse justice lui-même, s'il est Dieu. C'est un titre d'honneur donné à Gédéon qui dit toute l'impuissance de Baal, parce que Baal va rester silencieux. Un titre d'honneur qui dit toute l'impuissance de Baal, mais qui dit aussi que le Seigneur est plus grand et plus fort que Baal. Quelle belle réputation pour celui qui va devoir rallier le peuple, et cette réputation va l'aider. Pour celui qui va devoir mener ce peuple au combat contre les Madianites. Quelle belle réputation et puis quelle belle introduction à la délivrance. parce que Dieu est en train de préparer Gédéon, de préparer le terrain. Il est en train de faire de Gédéon le vaillant guerrier prophétisé par le prophète quelques versets auparavant. Cette nuit-là, Gédéon n'a pas seulement renversé un autel de Baal en Israël. C'est beaucoup plus que ça, ce qui s'est passé. Cette nuit-là, Gédéon a porté un coup fatal au baalisme, au culte de Baal et à celui d'Achéra. Et il a amorcé par là, et on le voit par le Père qui revient, le véritable retour du peuple à l'Éternel. Alors il était temps. Il était temps parce que les Madianites sont sur le point de revenir. Ce n'était pas dans notre lecture du jour, c'est le verset suivant. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la plaine de Jizréel. Le combat aura bientôt lieu. Que va-t-il se passer? C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois. Je vous invite à prendre quelques instants de silence, de méditation pour repasser dans notre cœur ce que nous avons entendu, peut-être ce qui nous a interpellés ce matin. Amen.